Chers amis, bonjour. Donc, je vous propose que nous débutions. D'abord, je vais vous souhaiter la bienvenue ici, dans cette salle de conférence de la Philharmonie de Paris, qui jouxte un espace assez grand qui est derrière, qui est notre nouvel espace d'exposition temporaire. Donc, je veux tout de suite remercier les porteurs de ce projet de recherche, à savoir l'ANR, l'UMR Talim et le CESR de Tours. Bien sûr, ce projet est un projet donc sur l'histoire du punk en France porté par Solveig Serre et Luc Robben, que je remercie aussi à la fois de permettre à la Philharmonie d'être associée à ce projet, mais aussi je remercie pour l'organisation, la conception du colloque qui nous réunit ici. D'une certaine manière, les études, les démarches de réflexion autour des musiques populaires se développent ces dernières années en France et on ne peut que s'en féliciter. Nous sommes nous-mêmes dans notre domaine culturel un peu le reflet de ce développement, comme le sont les universités et les unités de recherche par ailleurs, à savoir que nous avons débuté notre projet à la fin du XXe siècle avec l'ouverture de la Cité de la Musique en 1995. Le projet était porté par un compositeur, le compositeur le plus célèbre de la deuxième moitié du XXe siècle en France, à savoir Pierre Boulez, et était assez axé sur les démarches expérimentales. Ce projet se voulait aussi un nouveau modèle de diffusion, en n'étant pas ancré seulement sur les concerts, mais en associant concerts, patrimoine à travers le musée de la musique et aussi tout le spectre possible d'activités éducatives, incluant la réflexion théorique. Et au XXIe siècle, nous avons élargi ce projet en ouvrant d'ailleurs ce bâtiment dans lequel vous êtes aujourd'hui, qui s'appelle la Philharmonie de Paris, qui tourne autour d'une très grande salle de 2400 places, qui est basée sur des modèles architecturaux qui ont été développés à partir des années 1960. Le premier modèle mondial qui a été développé de cet ordre-là s'appelle la Philharmonie de Berlin. Ensuite, d'autres philharmonies se sont créées dans le monde et celle-ci est la première qui se soit créée en France et qui vise à rendre le champ de la musique symphonique moins passif avec des salles enveloppantes, une scène au milieu, le public autour et une qualité acoustique qui n'a rien à voir avec les salles traditionnelles. Mais nous n'avons pas voulu limiter notre projet à cet aspect des musiques dites classiques avec des guillemets. Nous avons surtout basé notre effort sur l'élargissement du projet vers un champ beaucoup plus large. Et nous avons mis deux priorités. Le premier, c'est le développement des publics en ayant des grands espaces. Si pour ceux qui veulent circuler, vous verrez à côté, nous avons plusieurs espaces qui favorisent les ateliers de pratique musicale pour tout public, enfants et adultes. Nous avons aussi développé du coup d'autres types d'activités éducatives. C'est par exemple le cas du projet que porte notre direction éditoriale dirigée donc par Stéphane Roth, qui explique notre présence ici, car il s'agit non seulement d'un projet de travail éditorial, mais aussi d'organisation, de colloques, de conférences, de thèmes de réflexion qui s'articulent un peu autour de nos axes de programmation. Et enfin, nous avons fait en sorte que la programmation au sens général associe, confronte, met en perspective tous les champs musicaux. On a un socle historique qui part de la fin du Moyen-Âge pour aller jusqu'à la création contemporaine, en passant bien sûr par les grandes formes telles qu'elles se sont développées au XIXe siècle. Mais ce champ historique est confronté à différentes dimensions de musique populaire, qu'il s'agisse de musique issue du monde occidental, pop, rock, jazz, d'autres formes que vous incarnez par exemple, jusqu'à des musiques issus de traditions d'autres continents, qu'il s'agisse de l'Afrique, du Moyen-Orient ou de l'Asie, en incluant d'ailleurs par moments des chants de tradition qu'on retrouve dans notre pays, sur les musiques celtes ou d'autres types d'approches. C'est donc pour nous assez naturel de se retrouver aujourd'hui à parler du sujet qui nous occupe, d'autant plus que ce travail que nous menons sur le plan des concerts, nous l'élargissons aussi à nos expositions temporaires. Certes, actuellement, si vous le voulez, vous pourrez assister à une exposition sur le compositeur qui ne relève pas forcément du mouvement punk, à savoir Beethoven, bien que des représentations qui en ont été formulées au XXe siècle peuvent l'en rapprocher. Mais nos expositions ne se limitent pas à ce champ-là, puisque de David Bowie à un projet prochain sur la Jamaïque ou d'autres types de musique, nous couvrons là aussi un spectre large. Donc voilà, bonne journée, bons travaux tout au long de la journée, et mon propos liminaire donc ne visait qu'à dire qu'il y avait un axe naturel entre votre journée d'études et ce que nous essayons de produire, de proposer tout au long de l'année. Donc, je laisse bien sûr la place maintenant à notre partenaire, et notamment en premier lieu à Philippe Vindrix, donc, qui est président de l'Université de Tours, notamment. Mais je ne sais pas si c'est à ce titre que tu démarres aujourd'hui. Voilà.
Merci Laurent. Merci Laurent. Merci Monsieur le Directeur, chers collègues, chers amis, et puis tout ce public nombreux pour un colloque de musicologie. J'ai souvent défendu l'idée qu'une université, c'était un lieu de l'hétérogénéité. Alors quand il y a un colloque qui est porté par Sol Wexer, une chercheuse au CNRS qui est en charge pour l'Université de Tours et le CNRS de s'occuper d'un centre de musique baroque à Versailles, lorsque c'est un musicologue des plus traditionnels, c'est-à-dire moi-même, qui doit représenter l'Université de Tours, lorsque on voit qu'il y a un lieu fait, et c'est ce que Laurent vient de rappeler, un lieu fait pour l'hétérogénéité de la musique aussi, lorsque l'on sait qu'il faut réunir pour parler du punk des publics différents, des experts différents, on ne peut qu'être conforté dans cette vision de l'hétérogénéité de l'université. Et cette hétérogénéité s'est manifestée dans le champ des sciences humaines et sociales de façon très nette depuis une vingtaine d'années par ce que l'on appelle la pluridisciplinarité, c'est-à-dire qu'on croise les regards des sociologues, des ethnologues, des musicologues, des historiens de l'art, des historiens, des économistes, des politologues, de toutes ces disciplines. On les fait se rencontrer, débattre dans des lieux. Il y a des lieux qui ont été dédiés par le CNRS, par le ministère qui s'appelle des maisons des sciences de l'homme et de la société, par exemple. Ce sont des lieux dédiés à la pluridisciplinarité, qui ont vu émerger des projets comme celui que Solveig porte aussi ici avec Luc Robben. Savoir des lieux où on essaye de briser les limites des champs disciplinaires. Et il s'avère que le punk s'y prête assez bien, et le punk reste encore une histoire à écrire. J'ai un peu fouillé la bibliographie hier, et j'ai constaté qu'il y avait ces derniers temps une pression forte en matière de recherche sur le punk. Il y a à peine un mois, un colloque s'est tenu à Cornell University, en lien avec une exposition qui était consacrée à une donation qui a été faite. Je crois qu'il y a plus de 3000 objets qui ont été déposés dans cette célèbre université, qui est une bibliothèque très riche, mais 3000 objets qui concernent le punk. Et en lien avec cette donation, il y a eu ce colloque il y a 15 jours, 3 semaines, à peine, autour du punk. Et puis des publications, mais qui montrent qu'il reste encore à rédiger ce récit du punk dans certaines aires culturelles, dans certaines aires linguistiques, dans certaines aires géographiques. Donc, un travail qui est fait pour la pluridisciplinarité dans un cadre spécifique. Mais comme musicologue, même si cette question de la pluridisciplinarité m'intéresse beaucoup, alors qu'elle est quand même bien établie aujourd'hui, il y a un autre champ qui me semble très important pour le domaine global des sciences humaines et plus particulièrement de la musicologie, qui est celui de la donnée. Vous savez, on travaille beaucoup sur la compréhension de la donnée musicale et le traitement de la donnée musicale de façon massive. Cela peut être à travers des transcodages de la notation musicale avec le Music Encoding Initiative. Ça peut être la manière d'indexer des enregistrements discographiques. Ça peut être la manière aussi d'indexer des vidéos, des vidéoclips. Il y a un travail assez important qui est mené. Et il est mené dans ce cadre-là à travers un spectre bien précis qui est celui de la définition d'un seul objet support. Je crois qu'avec le punk, on peut aborder cette question des données massives, des données nombreuses, parce que massive, c'est peut-être beaucoup dire, mais en tous les cas, des données nombreuses, sous un aspect nouveau, qui est celui de la donnée hétéroclite. Alors, traiter des données hétéroclites pour une machine, un ordinateur, c'est quasiment impossible aujourd'hui. Il y a plusieurs chantiers qui sont mis en œuvre à l'Université de Tours pour essayer d'aborder cette question. Mais je crois que dans le domaine des sciences humaines, regarder le punk est sans doute une démonstration possible de le traitement des données hétérogènes. C'est dire que tout ce que vous avez récolté comme information, tout ce que vous allez dire, tout ce que vous allez décrire, vos outils d'analyse, vos objets analysés, les images, les enregistrements, les transcriptions, dans certains cas, les paroles, les témoignages, tout cela mérite d'être pensé comme un ensemble cohérent, mais qui doit faire l'objet d'une réflexion très profonde, qui s'inscrit dans une dynamique aussi portée par le CNRS, par les universités, par le ministère, qui est celui des très grandes infrastructures de recherche. Il y en a une qui s'appelle Humanum, qui est consacrée à ce domaine des humanités globalement, et on espère bien que le punk pourrait être un fer de lance d'une politique originale de cette très grande infrastructure de recherche. C'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, parce que je vois que j'ai pas mal de collègues qui me suivent, et je cède directement la parole à Mireille Branche, qui représente ici l'Agence nationale de la recherche. Merci.
Bonjour, je serai très brève. Je suis vraiment très heureuse d'introduire à mon tour ce colloque, qui est un colloque prometteur, et déjà, en fait, d'ores et déjà important. Je suis très fière que l'ANR, l'Agence nationale pour la recherche, accompagne par son financement pour 4 ans ce projet PIND. Il a été sélectionné parmi 20 projets et particulièrement au titre des jeunes chercheurs, jeunes chercheuses, parmi les 5 projets jeunes chercheurs, jeunes chercheuses, élus dans le domaine art, création, culture et patrimoine. Et je dois dire que rarement un projet aura été autant à l'intersection de ces notions. Entre une création toujours vivante et déjà patrimoine, puisque je sais qu'il s'agit pour vous aussi de sauvegarder une mémoire et qu'il y a des spécialistes aussi de patrimoine qu'on a trouvé sur d'autres terrains dans votre colloque et qui vont parler ce matin, entre les arts au pluriel, comme le montre la pluridisciplinarité et la transdisciplinarité de ces journées, de votre projet de recherche, et puis la recherche. Un projet aussi entre culture et espace social. Tout ça en fait un projet vraiment extrêmement prometteur, stimulant. Et puis, il y a ce lieu qui, je trouve, est un lieu formidablement choisi pour ce colloque, inattendu peut-être au premier abord, mais un lieu qui est un lieu pont, qui témoigne d'une recherche qui est ouverte au grand public, et vers le public. Et cela est, je crois, aussi à signaler. C'est aussi un lieu symbolique pour replacer, comme vous voulez le faire, la musique au cœur de l'étude de toute la scène punk. Donc merci beaucoup à Laurent Bell, à la Philharmonie, d'offrir à ce colloque parrainé par l'ANR ce lieu formidable qui est un symbole de dialogue entre le monde de la recherche, les acteurs de la scène punk et le grand public. Donc, bon colloque, bons travaux et bon programme de recherche. Voilà, et félicitations parce que c'est d'ores et déjà quelque chose de vraiment très stimulant. Voilà, et je passe la parole à mon tour à Alain Schaffner de Tallinn.
Merci, bonjour à tous. Je suis heureux d'introduire à mon tour ce colloque au nom de l'unité mixte de recherche Tallinn. Théorie et histoire des arts et littérature de la modernité de l'Université Paris 3 en association donc avec le CNRS et l'ENS. Alors je dois dire que j'ai un peu hésité à choisir ma tenue vestimentaire pour l'introduction d'aujourd'hui et mes collègues ne se sont pas privés de me donner des conseils que je me suis bien gardé de suivre. Je sortais de chez le coiffeur et je n'ai pas eu le courage d'y retourner. Je voudrais commencer donc par remercier Solveig Serre, musicologue, et son alter ego Luc Robben, qui fut et reste musicien, les principaux organisateurs de ce colloque. J'ai vu qu'ils étaient assistés par un comité scientifique important et par un comité d'organisation. Solveig et Luc qui n'ont pas ménagé leurs efforts au sein de notre unité de recherche pour monter ce programme Punk is not dead, qui a été distingué par l'ANR au moment même où Solveig venait de rejoindre, fidèle à sa première spécialisation, le Centre d'études supérieures de la Renaissance, et plus particulièrement une de ses composantes, le Centre de musique baroque de Versailles. Alors elle envisage, m'a-t-on dit, de le transformer prochainement, je ne sais pas si son directeur sera d'accord, en Centre de musique baroque. Baroque, ce pourrait être à la rigueur une définition du punk, à condition de ne pas entendre « bas » comme un jugement de valeur, bien sûr, mais comme une posture, une façon de se présenter au public, un jeu de scène, ce qui nous ramène à l'étude de la scène punk, qui est le sujet du colloque d'aujourd'hui. Je me réjouis, moi aussi, comme l'a fait Mireille Branché tout à l'heure, que les institutions françaises, l'université, le CNRS, l'ANR, aient eu suffisamment d'ouverture pour permettre à un sujet tel que celui-ci de devenir un objet d'étude reconnu dans le vaste système des contre-cultures qu'étudie, soit dit en passant, un autre membre de notre unité, Olivier Penaud-Lacassagne, qui participe au colloque d'aujourd'hui, et je vous renvoie bien sûr à son livre sur les contre-cultures paru en 2013 chez CNRS Éditions. Olivier, tu n'oublieras pas ma petite commission comme prévu. Il n'est pas là, je crois, pas encore arrivé, il viendra demain. Je remercie également la Philharmonie de Paris de nous accueillir aujourd'hui dans ce lieu absolument magnifique qui, on le voit et on l'a dit, ne limite pas son champ d'investigation à la musique classique dont elle est un des temples. Alors je dois dire qu'il est assez émouvant pour moi de voir un phénomène social et culturel dont j'ai pu observer dans mes jeunes années l'apparition et le développement passer avec le recul du temps du statut de sujet d'actualité à celui d'objet d'étude. Le projet de recherche de Solveig et Luc porte bien son titre, puisqu'il substitue au No Future, interprété un peu hâtivement comme la revendication par le mouvement de son caractère éphémère, le Punk Not Dead, qui assure sa résurrection et sa pérennité. L'originalité du projet, mais on aura l'occasion de l'explorer au cours de ces journées, est bien sûr de dégager le mouvement de sa seule logique anglo-saxonne pour s'intéresser à 40 ans d'histoire de la musique et de la scène punk en France sur la période donc 1976-2016. L'envergure du programme présenté, je dois dire, est impressionnante. Je parle du programme du colloque auquel nous participons, des scènes locales aux scènes étrangères, aux questions d'archives, des médias et de la construction de l'image punk, des carrières punk aux écritures punk et aux esthétiques punk. On voit qu'il y a là un champ d'études dont mes collègues disaient tout à l'heure qu'il restait pour une bonne part à explorer. Mesdames, Messieurs, je compte sur vous. Je vous souhaite un excellent colloque et longue vie au punk qui n'est pas mort, mais ressuscité. Merci à tous.
Bonjour à tous. Benoît Pierre, directeur du Centre d'études supérieures de la Renaissance, qui peut apparaître comme une anomalie dans le paysage ici des différents partenaires qui sont cités. Alors d'abord, je voudrais remercier Luc Robben et Solveig Serre pour leur invitation et vous expliquez effectivement la présence du CVSR très, très rapidement en deux mots. C'est tout simplement lié à l'un des deux co-organisateurs, Solveig Serre, qui est par ailleurs la directrice du Centre de musique baroque de Versailles. Et ce centre est sous la tutelle, du moins le pôle recherche est sous la tutelle du CVSR à l'Université de Tours. CVSR qui a une triple tutelle. Bien sûr, l'université François Rabelais de Tours, le CNRS en tant qu'UMR et également le ministère de la Culture, entre autres via le Centre de musique baroque de Versailles. Au CESR, on cultive, bien sûr, les études sur la Renaissance, mais on s'attache aussi beaucoup à travers les chercheurs, et Solveig est un exemple typique, on essaie de d'accorder de l'importance à la fois l'interdisciplinarité, qu'a rappelé notre président Philippe Vindrix, mais également à des doubles compétences, des doubles champs, triples champs parfois, de recherche. Nous l'encourageons à partir des recherches qui sont menées par les uns et les autres. Nous l'encourageons aussi en termes de programmation scientifique. Et au sein du CESR, nous avons à la fois des axes de recherche qui s'y prêtent particulièrement bien, notamment sur la dimension des humanités numériques, également sur la question des arts performatifs, donc qui portent bien sûr principalement sur la Renaissance, mais qui vont aller chercher avec d'autres laboratoires, d'autres disciplines, des éléments pour créer cette transdisciplinarité, cette interdisciplinarité. Dans les différents programmes que nous avons, programmes de recherche qui sont financés, nous avons notamment une ERC qui s'appelle PerformArt, qui porte sur cette question des arts performatifs, même si elle se concentre sur la fin 17e, 18e siècle avec l'École française de Rome. Elle intègre cette dimension, je pense, qui est aussi importante pour ce colloque aujourd'hui. Il y a, bien sûr, le groupe de musicologie très, très dynamique, Richard Carr. Et nous avons également un programme dans lequel cet ANR s'insère pleinement, qui s'appelle Intelligence des patrimoines, qui est porté par le CESR, qui porte particulièrement sur des questions de patrimoine du Val-de-Loire, mais pas que désormais, et qui travaille en collaboration avec une quarantaine de laboratoires de la région Centre-Val-de-Loire. C'est pratiquement aujourd'hui tout le périmètre scientifique des SHS, mais également d'autres secteurs scientifiques, les TIC, très important pour la question qu'a rappelé Philippe Vindrix tout à l'heure de l'hétérogénéité des données dans le domaine de la culture et du patrimoine, et également d'autres secteurs, les sciences des matériaux qui travaillent beaucoup avec l'histoire de l'art, également les sciences du vivant désormais sur tout le volet patrimoine naturel en lien par exemple avec l'éco-anthropologie ou en lien avec les sciences sociales de manière plus générale ou en lien avec les humanités. Nous avons créé cette dynamique que portait d'ailleurs Philippe Vindrix. Nous l'avons prolongé aujourd'hui grâce à l'appui très fort de la région Centre-Val-de-Loire. Désormais, nous avons aussi des partenariats qui sont des partenariats élargis. Le ministère de la Culture nous soutient, l'UNESCO également, dans un prochain projet que nous déposons avec ces trois volets que nous développons à la fois en matière de recherche, bien sûr, interdisciplinaire, mais désormais de plus en plus aussi en matière de formation, puisqu'il y a une préfiguration d'une école supérieure en intelligence des patrimoines qui est en train de se dessiner à Tours avec nos partenaires d'Orléans et peut-être aussi de Poitiers. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et je vous présente Michèle Bubnichek, directrice de l'École nationale des chartes.
Donc bonjour à tous. Je vais être rapide, rassurez-vous. En tant que directrice de l'École nationale des chartes, je suis très honorée de contribuer à l'ouverture dans ces magnifiques locaux de la Philharmonie de Paris de ce colloque de deux jours consacré à la scène punk en France entre 1976 et 2016. D'aucuns pourraient peut-être se poser la question du lien entre l'École des Chartes, institution dédiée depuis bientôt deux siècles aux sources de l'histoire et du patrimoine, et une thématique scientifique aussi novatrice que peut l'être celle de la scène punk. Ce lien pourtant est bien réel. Le colloque est en effet, nous l'avons déjà dit, mais j'y insiste, co-organisé par une consoeur chartiste particulièrement brillante, Solveig Seeg, éminente musicologue, qui est par ailleurs membre associé du Centre Jean Mabillon, qui est le laboratoire de recherche de l'École des Chartes, Solveig Seeg, dont je salue ici l'énergie et les travaux. Il repose par ailleurs, ce colloque, sur plusieurs interrogations essentielles, parmi lesquelles figure la problématique des sources. Quelles sont en effet les traces écrites, orales, spontanées ou suscitées, constituées ou encore en cours de constitution, qui permettent justement d'écrire cette histoire de la scène punk ? On rejoint ici l'ADN profond qui est celui de l'École des Chartes, dont l'une des spécialités est précisément l'étude, le repérage des traces du passé, que ce passé soit lointain ou récent. À titre personnel, enfin, je me réjouis vivement d'une thématique assez proche, finalement, des préoccupations scientifiques qui sont les miennes en tant qu'historienne médiéviste, même si les choses peuvent paraître un peu éloignées a priori. En effet, spécialiste du politique et notamment des contre-modèles étatiques et de la rébellion, je ne peux qu'être séduite par une manifestation scientifique dont l'objet est précisément l'analyse d'une des contes des cultures de la rébellion. Modèle analytique qui me semble particulièrement fécond pour parvenir à une approche fine à la fois du politique et du social. Je me réjouis donc vivement que l'École des Chartes ait pu être associée à l'organisation de ce beau colloque et vous souhaite à toutes et à tous, à l'image de la scène punk peut-être, d'énergiques et fructueux échanges.
Bonjour à tous. On va être très bref parce qu'après on voudrait vous laisser la parole. Alors je voulais juste rappeler que ce projet était une histoire d'heureuse rencontre. Une rencontre avec un groupe de punk en 2010, New Model Army, qui n'est pas français mais qui est un groupe culte de l'underground anglais. Un concert au Trabendo qui agit chez moi comme un électrochoc quant à l'énergie, la ferveur, la révolte que cette musique punk peut porter. Une deuxième rencontre en 2012 avec un lieu aujourd'hui disparu, la Miroiterie, 88 rue de Ménilmontant à Paris, et avec ses occupants, Michel, Laurence, Anne-Sophie et les autres, qui me révèlent alors qu'il existe bien une scène punk en France et qu'elle n'est pas moribonde comme certains voudraient bien le prétendre. La rencontre décisive avec Luc Robben en 2013, lors d'un colloque à Lille consacré à l'histoire sociale du rock, organisé par Florence Tamagne et Arbo Bobero, qui est ici présent. Et je le souligne car ce genre d'initiative dans le domaine francophone est extrêmement rare. Le projet sur la scène punk en France, depuis 1976, élaboré comme un défi, un soir, très tard, après avoir bu beaucoup de bière. Puis un projet qui prend corps, une fois dessoulé, à l'automne de cette même année 2013. La rencontre progressive pendant les deux années qui vont suivre avec les membres de la future équipe, dans l'ordre alphabétique, Christophe Baker, Pascal Dupuis, Johan Ellart, Samuel Etienne, Jérôme Guibert, Tim Héron, Philippe Lyotard, Denis Mélier, Christophe Pécou, Olivier Penaud-Lacassagne, Marine Schutz, Yassine Belliot, Vincent Besson, Vincent Boite, Estelle Gérard-Surinski, qui viennent tous de disciplines et d'horizons différents, mais qui tous croient au punk et à la nécessité d'écrire cette histoire de la scène punk en France maintenant. La rencontre enfin avec les institutions, que je remercie infiniment pour avoir toutes répondu présentes à l'appel du punk aujourd'hui. Mon institution, tout d'abord le CNRS. Merci Alain, merci Philippe, merci Benoît pour m'avoir accueilli dans votre belle unité Tourangelle et pour m'avoir donné, sans préjugés ni préconçus, toute liberté pour travailler sur ce domaine de recherche encore peu prisé des milieux académiques. La Philharmonie, l'École des Chartes, la Fanzinothèque, le ministère de la Culture via sa mission des archives, le Centre Barbara Fleury qui nous offre depuis le début du projet un cadre vraiment propice à nos journées d'études, l'Agence nationale de la recherche enfin qui a accepté de financer le projet depuis juillet et de lui donner des moyens matériels indispensables à son bon épanouissement. Et comme derrière les institutions, il y a bien entendu les personnes qui les font vivre. Nous remercions Laurent Bell et Stéphane Roth pour le soutien qu'ils apportent avec beaucoup de ferveur au projet depuis le début et leur accueil dans ce lieu magnifique, on ne pouvait vraiment pas rêver mieux. Pascal Saint-André qui a géré l'organisation d'une main de fer dans un gant de velours avec l'aide de Marion et de Julie. Hamid pour la communication, je ne vous vois pas parce que j'ai les lumières en face. Jean-Michel Legnou et Michel Boubenitschek, Vincent Boite, Daniel Gambino pour Barbara Fleury, Lucie, J.H. Elsa et Jérémy. Mireille Branger et Tatiana Bakowski, Sandrine Leroux qui a porté toute la gestion administrative du colloque sur ses épaules et ça se voit peut-être pas mais c'était pas du tout léger, Julien Charbet, Emilka, Michal, Agnieszka, Beata et Magda, que des A mais c'est parce qu'ils sont polonais, de l'agence Podpunk qui nous ont fait tout le graphisme du projet depuis le début. Alors je le disais en guide de prélude, ce projet est une histoire d'heureuses rencontres et nous sommes, Luc et moi, très très heureux de vous avoir tous réunis pour ces deux jours de colloque à la Philharmonie en guise de colloque inaugural à notre projet Punk is not dead, une histoire de la scène punk en France depuis 1976.
Alors je me joins bien évidemment à Solveig pour remercier nos tutelles, le CESR, Talim et puis la Philharmonie. Je voudrais juste rappeler en quelques mots que notre projet de recherche, ça a été dit, part de la musique pour mieux y revenir en quelque sorte. Je crois qu'il est bon de le rappeler dans le contexte de la Philharmonie de Paris qui nous accueille aujourd'hui pour ce colloque introductif. Ce projet interroge l'invention d'un son spécifique, de code, d'une manière de composer, de s'exprimer, en répète, en concert, sur cassette, sur disque et par tous les moyens, bref, de partager des émotions, des sensibilités, des morceaux et des mots qui font sens au regard de postures artistiques et sociales. Subversion, détournement, provocation, rébellion, ça vient d'être appelé, ou en fonction de configuration et de rapports de force qui renvoient au développement globalement de cultures alternatives. Au-delà de la musique, des musiciens et de leur public, ou articulés avec eux, il y a bien sûr l'ensemble des pratiques culturelles, des productions, des usages, des modes de vie, des arts, qui participent à donner une visibilité, une visualité, une matérialité, voire une identité, on verra, au punk en France. Et c'est autour de cet ensemble et de ces transformations dans le temps et dans l'espace que s'est organisé PIND. Alors PIND, c'est quoi ? L'acronyme de Punk is not dead, punk pas mort. C'est aussi le nom de notre projet de recherche consacré à l'histoire de la scène punk en France depuis 1976 jusqu'à nos jours. Un retour vers No Future qui interroge l'existence et les conditions d'existence de la scène punk en France depuis 40 ans. Ça parle de musique et de musiciens, d'artistes et de visuels, de la débrouille et de la vie sur scène ou au squat, d'une création en résistance à Caen, Rouen, Paris, Toulouse, Fumel, Bordeaux, Rennes, Montaigu, Lyon, Saint-Étienne. Ça parle des marges et d'un regard sur l'autre. Ça parle de la vie, de la poésie et du corps, de la danse, des manches de guitare, des tatous, des marques corporelles. Ça parle des filles et des garçons. Ça parle de la dope et des avenirs qui en meurent, de la jeunesse et de la vieillesse aussi, les vieux punks, hein, qui surprend toujours en creux ceux qui pensaient ne pas survivre à No Future. Ça parle de 1977, des années 80, 90, 2000, 2010. Ça parle d'aujourd'hui et sans doute de demain. Ça cherche, ça discute, ça polémique, ça gueule parfois, mais toujours pour comprendre. Bref, c'est un truc essentiel, piloté et mis en musique par des chercheurs, des musiciens, une équipe terrible qui vient d'être citée et tellement motivée. Bref, do it yourself, hey ho, let's go, bon colloque.